Chers auditeurs, si l'on s'écrase, la messe aura lieu à Saint-Sulpice. Mozart à tue-tête, plug and play au premier rang. Pas d'argent pour le cancer, tout pour les fleurs. Voici le message prémonitoire, quelques jours avant son décès, de celui dont nous allons parler aujourd'hui. Un homme aussi charismatique que provoquant, Richard Descoings. Raphaël Baquet, grand reporter pour le journal Le Monde et fin observateur de la vie politique française, revient après avoir écrit sur Jacques Chirac et Dominique Strauss-Kahn pour nous raconter dans un livre publié cette année chez Grasset, Richie, le parcours de Richard Descoings, directeur emblématique de Sciences Po, retrouvé mort le 3 avril 2012, nu dans une chambre d'hôtel à New York. Car comme l'écrivait à juste titre Donatien Alphonse de Sade, il est très doux de scandaliser. Il existe là un petit triomphe pour l'orgueil qui n'est nullement à dédaigner. Vous êtes bien sur Transistor et vous écoutez, après nous, le déluge.
Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun.
Écrit, je lui dis, oh, c'est peut-être un peu fort. Finalement, j'ai dit, ben non, j'exprime ce que je pense.
C'est moins sa mort étonnante et mystérieuse à l'époque que la démonstration incroyable qu'a été son enterrement. Cet enterrement qui était à l'église Saint-Sulpice, donc une des grandes églises emblématiques de Paris, avec 3000 personnes et un mélange vraiment tout à fait surprenant. Il y avait à la fois toute la nomenclature française, plusieurs ministres, des hommes politiques connus, le maire de Paris, bien sûr, il y avait des grands professeurs, évidemment, des banquiers, et puis des étudiants en larmes, très démonstratifs sur le parvis. Et c'est ce mélange tout à fait étonnant et inédit qui m'a donné envie de me pencher sur ce personnage, puisque jamais on n'avait vu un directeur d'école, si vous voulez, aussi populaire et autant pleuré. Et évidemment, c'était pas n'importe quel directeur d'école, puisque c'était le directeur de l'école du pouvoir, et à travers lui, ça permettait de raconter ce que sont nos élites aujourd'hui.
Alors, avant de rentrer plus en détail dans la matière de ce qui constitue le livre, c'est-à-dire à la fois le récit biographique de Richard Descoings et d'autre part une sorte de description de peinture à la fois dans le milieu science-piste, de ce que peut être l'ambiance à Sciences Po et en même temps de ce que sont les élites françaises, je voudrais aborder dans cette interview avec une question un petit peu méthodologique. Une remarque m'est venue en lisant votre livre. Celui-ci est très riche en témoignages, de toute part énormément d'intervenants pour constituer la matière de ce livre, et aussi également en anecdotes à propos de Richard Descoings, dont nous reparlerons un peu plus. Comment prépare-t-on un livre comme celui-ci? C'est-à-dire, à partir de ce matériau qui est très fluent et très volatile que sont les témoignages, qui est sujet à tous les biais possibles et à toutes les amitiés et les inimitiés, comment fait-on un livre à partir de ça?
D'abord, c'est une enquête journalistique au départ. Si vous voulez, je pratique ce que les Américains appellent le narrative journalism, mais en France, on n'a pas tellement de mots parce qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est. Mais enfin bon, c'est un journalisme de récit, si vous voulez. Donc, le fond est une enquête journalistique et la forme tire vers plus la littérature, même si je ne me prends pas pour un écrivain, si vous voulez, mais la forme est plus littéraire. Donc, sur le fond, c'est une enquête journalistique tout à fait classique. J'ai rencontré près d'une centaine de personnes. J'ai à la fois... Il y a des documents qui existent sur Sciences Po, sur les années SIDA, puisque Richard Descoings avait été un des fondateurs de AIDE. Il y a des tas de documents qui existent sur l'ENA de l'époque, sur la haute fonction publique des années 80 et 90, sur le milieu politique. Donc, j'ai à la fois croisé des témoignages et évidemment... comme tout journaliste, on ne se sert pas que d'un témoignage, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a toujours des biais, il y a des reconstructions, les témoignages ne sont jamais toujours complètement fiables. Hein. Donc vraiment, j'ai croisé énormément de témoins, et c'est à partir de tous ces témoignages, de ces documents, de ces reconstitutions, si vous voulez, historiques, entre guillemets, d'une histoire récente, que j'ai pu bâtir ce récit.
Il n'y a pas de portrait exhaustif et posé, comme il y aurait une description balzacienne, 4 pages de Richard Descoings, mais une sorte de faisceau d'indices qui nous permettent à nous, lecteurs, de deviner ce que peut être Richard Descoings, ce que peut être la personnalité très complexe d'ailleurs de l'homme, à travers différents comportements, différentes réactions face à différents personnages. Mais je voudrais vous soumettre un exercice un petit peu difficile, à partir donc d'une citation donc que vous notez donc d'une des personnes que vous interrogez pour votre livre, qui vous dit Richard, je cite, Richard, vous voulez en dire du mal ou du bien, parce qu'il y a matière à en faire un démon ou un saint, vous savez. Alors moi, j'aimerais avoir votre point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce que vous retiendriez de cette personnalité multiple qu'est Richard Descoings et quels seraient les traits saillants, marquants de sa personnalité.
Mais ce qui frappe chez lui, c'est justement sa dualité. C'est pour ça que j'ai pris soin de placer cette citation dès le début du livre, parce qu'effectivement, il est à la fois détestable et formidable. Ça a été à la fois un très grand directeur et en même temps, il y a eu des dérives inacceptables dans sa direction de Sciences Po. C'est à la fois un homme très séduisant et un homme très cruel. C'est à la fois un type complètement désaxé, il faut bien le dire, et en même temps quelqu'un qui a une vision et qui suit sa vision sur les élites et la construction d'une école de très haut niveau. Donc ces contradictions, cette dualité qui le caractérise. Et ce que je voulais, c'était justement restituer la nuance. Parfois d'ailleurs, des lecteurs me disent, il y a des lecteurs qui me disent « Ah, vraiment, vous l'adorez », d'autres lecteurs qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que vous l'avez éreinté ?» Et en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant. On peut y trouver à la fois du positif et du négatif, comme on trouve d'ailleurs très souvent dans la personnalité humaine. Hein. Et pour Richard Descoings, c'est particulièrement vrai. Encore une fois, moi-même, je suis passée par plusieurs états à son endroit. Je l'ai à la fois détesté, parfois adoré. J'ai été très bluffée par lui. Et puis d'autres fois, vraiment, je le trouve parfaitement immoral. Sur le plan de son comportement vis-à-vis de l'argent, par exemple, son cynisme. Donc vous voyez, et en même temps, je peux l'admirer. Donc je crois que c'est un homme qui ne vous laissait pas, non seulement pas indifférent, mais qui pouvait vous obliger à évoluer à la fois sur lui et sur son action.
Et je me permets de rajouter aussi, c'est ce qui me semblait aussi assez visible, une certaine marginalité qui conduit même à une solitude, qui se traduit d'ailleurs en souffrance, puisqu'il passe par un épisode dépressif assez important.
Une marginalité en même temps au cœur de l'insertion du système, hein, parce que il est quand même le top de l'élite, hein, donc justement ça fait partie encore de ces contradictions.
Est-ce que vous pensez justement que celle-ci a pu contribuer à faire de cet homme-là, joue un rôle important, voire prépondérant, dans cet homme qui est apparu comme un grand réformateur? Est-ce que ça a joué dans sa volonté réformatrice, certaine et très profonde, chez lui?
C'est ce que lui disait. Il disait, pour révolutionner quelque chose, pour réformer profondément un système, il faut être déviant. Alors, c'était aussi sa façon de légitimer aussi ses comportements. Hein. Quand il disait « il faut être déviant », il ne parlait pas de son homosexualité. Il parlait de sa façon de transgresser systématiquement les règles. Moi, je crois qu'évidemment, il faut forcément être un peu déviant. Il faut faire un pas de côté pour révolutionner. Vous n'êtes pas non plus obligé de complètement sortir des rails. Or, c'est ce qu'il a fait. Sur le plan budgétaire, par exemple, il y a quand même aujourd'hui une procédure judiciaire en cours parce qu'il est vraiment sorti des clous. Donc on peut être déviant jusqu'à un certain niveau. Et je pense qu'il y a eu des grands réformateurs, et pas seulement d'école, mais enfin aussi de grandes écoles, qui n'ont pas été déviants.
Une sorte de ligne qu'il a franchie et qui ne justifie
pas. Mais je crois qu'effectivement, pour modifier les choses, on ne peut pas être conformiste. De ce point de vue-là, il a raison. Si on est conforme, on ne fait que continuer ce qui vous a précédé.
Alors, on trouve également autre chose qui est très intéressant dans votre livre, qui est justement plus sur le côté de la peinture d'un milieu, d'une élite, ou de l'élite, je vous poserai d'ailleurs la question. Car si celui-ci parle de Richard Descamps et de sa vie, c'est aussi grâce, avec cette peinture de l'individu, un moyen de rentrer dans ce que vous appelez dans votre livre le tout Paris. Et on connaît donc par exemple la fameuse typologie de Bourdieu sur les différentes élites, entre rive gauche et rive droite, chacun sa stratégie, chacun ses goûts, chacun ses aspirations, ou alors entre une bourgeoisie plutôt économique et une noblesse d'État. Je voudrais vous demander si vous pourriez nous parler de cette société qui ressort en exergue à travers les fréquentations de Richard Descamps.
Bien, je pense qu'elle est, ça permet de dépeindre exactement ce qu'est l'élite d'aujourd'hui, si vous voulez, de la fin des années 80, des années 90, disons, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, une noblesse d'État, comme le disait Bourdieu, qui déjà faisait référence, au fond, à cette haute fonction publique des années 80. Hein. Mais si vous voulez, aujourd'hui, cette noblesse d'État, elle s'est mêlée à la noblesse économique, si on peut dire, en tout cas au patronat, aux banquiers d'affaires notamment. Et je pense que Descamps l'avait compris particulièrement. Il avait compris que l'argent était un élément important. C'est ce qu'on a appelé sa tentation américaine, lui qui était si français et qui voyageait si peu avant d'être à Sciences Po. Je pense que ça, effectivement, le système Descamps, ce qu'est Richard Descamps, brosse le portrait de cette transformation de l'élite qui à la fois s'est ouverte au monde économique et qui en même temps s'est totalement refermée, si vous voulez, d'un point de vue social, hein, sociologique. Moi, j'ai été sidérée de l'extraordinaire homogénéité du milieu quand même que fréquente Richard Descamps, où on a que des énarques, des gens qui sont sortis dans les grands corps de l'État, qui peuvent être sortis de la fonction publique d'ailleurs. Enfin, ils se ressemblent tous. Alors, il y rajoute, lui, un élément d'ailleurs de conformisme dans son milieu, c'est qu'ils sont tous homosexuels aussi. Mais, si vous voulez, c'est cette extraordinaire homogénéité, c'est aussi un des problèmes de l'élite française aujourd'hui, de sa sclérose. Et je crois que Descamps, malgré ses qualités, sa volonté d'ouvrir, de réformer, d'ouvrir un peu le recrutement de Sciences Po, était aussi le symbole même de son étroitesse quand même sociale.
Du coup, était-il vraiment déviant? C'est-à-dire, n'était-il pas déviant que par rapport à une norme qui serait plus générale? Et en fait, dans une continuité,
bien sûr.
Une continuité par rapport à son élite.
Non, mais il n'est déviant, enfin tout est relatif, parce qu'on a l'impression qu'il a révolutionné Sciences Po, parce qu'il a fait enterrer moins d'une centaine de jeunes gens venus des lycées de ZEP, si vous voulez. Ça montre aussi la sclérose dans laquelle est notre système d'enseignement supérieur, hein, puisqu'on a l'impression que c'est une extraordinaire révolution, alors que franchement, c'est quand même le béaba. Mais il l'a fait, donc il a fait ce que d'autres n'avaient pas fait. Donc, de ce point de vue-là, il a quand même changé les choses. Mais évidemment, il est un peu comme l'adage du guépard, si vous voulez. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut que tout change. Bon, c'est un peu relatif. Enfin, en tout cas, il faut changer le système de recrutement pour que rien ne change. C'est-à-dire que l'école du pouvoir reste tout de même l'école de la bourgeoisie.
Et à propos donc de ce tout Paris dont on parlait à l'instant, vous me disiez justement que il y avait eu une sorte de mélange entre des élites qui autrefois semblaient séparées, c'est-à-dire d'une part l'élite économique constituée de grands hommes d'affaires, de grands banquiers, de grands financiers, et d'autre part une élite plus proche de ce que Bourdieu a voulu justement dans les années 80, la noblesse d'État. Et est-ce que cette fusion consacre l'unification de toutes les élites? Est-ce que ce tout Paris que fréquentait Richard Descamps était comme représentatif de l'intégralité des élites qu'on trouve à Paris et qui font beaucoup les élites françaises?
Écoutez, aujourd'hui, on est bien obligé de reconnaître que, oui, alors certes, il y a de nouvelles figures, si vous voulez, surgies de la nouvelle économie, qui sont un peu différentes, encore que si je les prenais un à un, Patrick Drahi est polytechnicien, Mathieu Pigas est énarque, Xavier Niel est un peu différent, mais enfin, si vous voulez, il y a une nouvelle élite, mais elle est encore assez marginale, pas sur le plan de la fortune ou l'importance financière ou économique, mais dans son influence, c'est moins de 10 personnes. Ce qui reste encore très prégnant, c'est une élite d'ailleurs qui n'a pas changé depuis au fond Balzac, hein. C'est cet entrecroisement, si vous voulez, entre la noblesse d'État et l'élite financière et bancaire, qui effectivement se retrouve à Paris du fait de la centralisation de notre pays, et qui quand même tient toujours le haut du pavé et qui ne se renouvelle pas beaucoup. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs du déclin de la France. Je crois que la France serait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus novatrice, si justement ces élites étaient plus ouvertes, si elles étaient moins attendues et moins sclérosées.
Et alors, faut parler également, toujours pour continuer sur ces élites, parce que bon, il faut l'avouer, elles ont quand même si on peut les détester, elles ont toujours cette espèce de. Elles exercent toujours cette espèce de fascination, ne serait-ce que parce que peu de gens ont la possibilité de les voir directement. Sélectivité oblige, je mets des guillemets à sélectivité, même si on ne peut pas me voir faire ce geste. Est-ce que les codes tels qu'ils étaient, puisque vous décrivez donc, le jeune Richard Descoings avec tous les problèmes liés à l'émergence du sida, la peur qui existe et qui est très importante dans le milieu homosexuel de l'époque, est-ce que les codes, les pratiques au sens général de ces élites ont évolué?
Mais Richard Descoings croyait peut-être un peu naïvement, ou en tout cas il le laissait croire, que le fait d'être homosexuel et donc d'avoir une autre vie, si vous voulez, une vie de la nuit assez déjantée, il faut bien le dire, hein, ce qui concerne Descoings, hein, parce qu'il sortait énormément, il a touché absolument à toutes les drogues possibles et imaginables, c'était un homme qui avait une vie assez tumultueuse. Il pensait qu'au fond, cette vie, justement, l'empêchait d'être... le conformiste bourgeois qui était au fond l'apanage de ses pairs. C'est pas vrai, parce qu'il était à la fois un vrai grand bourgeois et il en connaissait tous les codes, et en même temps il avait ce côté-là, effectivement, sa vie de la nuit qui paraissait plus extraordinaire. Enfin, il n'est jamais sorti de sa classe sociale quand même, hein. Il est né dans le 7e arrondissement, il a fait ses études dans le 6e et le 5e dans les très grands lycées parisiens, et il a été directeur de Sciences Po au cœur du 6e arrondissement. Si vous voulez, c'est quand même un vrai petit triangle d'or, quoi. C'est incroyable, même. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça. C'est tout à fait lié à la centralisation. Évidemment, il aurait été américain, allemand ou anglais. Il est fort probable qu'il aurait eu une autre vie en province. Donc, je pense que de ce point de vue-là, si vous voulez, l'élite qui était celle à laquelle appartenait Richard Descoings n'est pas différente de celle que l'on voit. D'ailleurs, il la connaissait parfaitement parce qu'il en était issu, et il l'a simplement un tout petit peu décoiffé.
Pour finir sur cette élite, je voudrais justement vous interroger sur l'équipe dirigeante du conseil d'administration de Sciences Po, qui est quand même assez présente dans votre livre, puisque de nombreuses décisions sont prises à l'intérieur de celui-ci, notamment les fameuses rémunérations et le scandale qui en a suivi, dont nous allons parler dans quelques instants. Je voudrais savoir si aujourd'hui, nous sommes donc 3 ans après le décès de Richard Descoings, est-ce la même équipe qui dirige, bien que le roi soit tombé et que son lieutenant Jean-Claude Casanova soit en difficulté et ait quitté l'école? Est-ce que, mis à part ces deux têtes de pont, ce sont les mêmes personnes qui sont encore au conseil d'administration de Sciences Po, qui dirigent l'école et qui conservent ou qui maintiennent la vision qu'a l'école de son rôle?
À vrai dire, il y a eu assez peu de changements. Ce qui est intéressant chez Descoings, c'est pas tant les personnes nominativement, si vous voulez, qui sont là. Enfin, si ce n'est qu'il y a deux grandes figures des élites de l'époque qui sont évidemment Michel Pébrou, le grand banquier, celui qui est dans les bureaux du ministre de l'économie, quel qu'il soit, depuis 30 ans. Et puis Jean-Claude Casanova, un intellectuel reconnu, qui lui aussi d'ailleurs a commencé dans la politique puisqu'il était le conseiller de Raymond Barre. Mais en dehors de ces deux figures-là, ce qu'avait compris Descoings et ce que continue à ce qui perdure aujourd'hui, si vous voulez, avec son successeur Frédéric Mion, c'est qu'il fallait mettre dans son conseil d'administration les grandes institutions de contrôle. Donc, il y avait le vice-président du Conseil d'État, le président ou un magistrat très haut placé de la Cour des comptes, il y avait évidemment des inspecteurs des finances, bref. Il avait dans son, au cœur même de son conseil d'administration ceux qui auraient dû le contrôler et éventuellement être incompris au pouvoir. Et en les mettant dans son conseil d'administration ou en leur offrant des chaires ou des enseignements à Sciences Po, si vous voulez, d'une certaine façon, il les a neutralisés. C'est ce qui continue aujourd'hui. Et c'est une bonne compréhension, si vous voulez. C'est pas pour rien que Sciences Po est vraiment l'école du pouvoir. Elle a bien compris qu'effectivement, il fallait avoir en son sein les institutions de contrôle. Je pense que ça, c'est très très français. Et ce qui me frappe dans Sciences Po, qui est par ailleurs une très grande école, j'en ai été l'élève, j'ai beaucoup aimé, je pense que je conseillerais à des jeunes gens de faire Sciences Po. Vous voyez, j'ai pas de contestation sur l'école elle-même, hein. Je pense que ces étudiants sont de très bon niveau. Mais on voit bien qu'en même temps, elle prône des règles qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Et ça, c'est très typique aussi d'un système français. C'est qu'au fond, dans tous les gouvernements, si vous voulez, au moins la moitié des ministres sont toujours issus de Sciences Po. Et les règles auxquelles ils obligent, par exemple, les universités, ils ne l'appliquent pas à Sciences Po. Et ça a bien été le cas pour Richard Descoings. C'est-à-dire que il avait le droit de sélectionner, il avait le droit de faire des contrats de droit privé pour les enseignants, il avait le droit d'avoir des budgets absolument mirifiques, il avait le droit de faire venir des entreprises, toutes choses qui sont impossibles pour l'université, pour l'enseignement supérieur, vous le savez bien. Donc ça, c'est quand même incroyable de voir qu'au fond, on a instauré des règles très très strictes pour l'enseignement supérieur, règles auxquelles on le déroge dès qu'il s'agit de l'enseignement des enfants de l'élite.
Sciences Po, une sorte d'exceptionnalité française.
Ah oui, Sciences Po est la seule à avoir des statuts qui mêlent droit privé et droit public.
Comment expliquer, il se dessine quand même avec ce que vous me dites là, une sorte de paradoxe. Parce que d'un côté, vous me parlez d'une école qui part son recrutement assez intelligent et habile au sein de son conseil d'administration se place au-dessus, en dehors à la fois de la législation, des règles pour apparaître comme cette exceptionnalité dont on vient de mentionner le nom, et en même temps d'un autre côté on a l'actualité qui nous rappelle que nul n'est à l'abri, nul ne semble être au-dessus de la loi, puisque on a Jean-Claude Casanova qui justement va comparaître pour témoignage, si je ne me trompe pas, à propos du scandale des rémunérations qui a éclaté un peu avant la mort de Richard Descoings. Comment est-ce que vous pourriez justement nous éclairer face à ce paradoxe, et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le scandale des rémunérations et ce qu'il en est aujourd'hui?
D'abord, ce scandale des rémunérations, effectivement, il naît fin 2011, donc quelques mois avant la mort de Richard Descoings. Hein. On sait tout d'un coup de façon publique ce qui se pratique depuis déjà presque 10 ans à Sciences Po. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois Richard Descoings et son staff, les 10 personnes, si vous voulez, de son staff, se distribuent des primes qui peuvent parfois être tout à fait mirobolantes. C'est-à-dire que pour Richard Descoings, elles ont pu atteindre plus de 200 000 euros par an de primes. Donc, avec un salaire qui allait jusqu'à 570 000 euros par an pour Richard Descoings, ce qui est un salaire incroyable pour un directeur d'école ou un directeur d'université. Donc ça, si vous voulez, ça se fait en dehors de toute règle et de tout contrôle de l'État, puisque je rappelle quand même que la moitié du budget de Sciences Po est un budget public. Et cela se fait au sein d'un petit cercle où il y a 5 personnes, une magistrate de la Cour des comptes, un Michel Pébreau, inspecteur des finances, il y a Jean-Pierre Jouyet, puis il va y avoir Louis Schweitzer. Bref, il y a un tout petit cercle qui décide de l'attribution de ces primes, hors de tout regard. Et si vous voulez, c'est le fait de le rendre public qui va précipiter d'une certaine façon le scandale et peut-être la mort de Richard Descoings. Alors, 3 ans après, Jean-Claude Casanova est renvoyé par la Cour des comptes devant la justice. C'est un système qui dure depuis plus de 10 ans. Hein. Donc, on voit que ça fait... La France met toujours un peu de temps quand même avant de réglementer les choses. Alors, le successeur de Richard Descoings, Frédéric Mion, a mis fin à ce système. Donc, sous la pression, évidemment, du scandale et de la presse. Hein. Donc, aujourd'hui, ça, c'est terminé.
Je voudrais finir avec une dernière question. Vous qui connaissez bien la famille Strauss-Kahn pour avoir écrit un livre dessus il y a quelques années, au moment du scandale de l'affaire de Sofitel, je voudrais savoir quel rapprochement, quel point de convergence peut-on faire entre ces deux trajectoires, entre Dominique Strauss-Kahn et Richard Descoings, qui se connaissaient, puisque j'ai appris dans votre livre que Dominique Strauss-Kahn avait, peut-être pas longtemps, mais de manière enseignée à Sciences Po et a marqué Sciences Po avec la patte de son enseignement. Qu'est-ce qu'on peut, ces deux trajectoires qui finalement se terminent de manière un peu tragique sur un fait divers, sur une histoire de mœurs, quels sont les rapprochements qu'on peut faire entre ces deux hommes, peut-être au niveau du comportement, peut-être en ce qu'ils symbolisent un certain parcours à la française où on mêle plus facilement scandale de la vie privée, scandale public, grande carrière, ce qui serait peut-être plus difficile aux États-Unis, ou toute autre suggestion, la question est très ouverte.
Bon, je pense qu'ils sont quand même pas tout à fait pareils. Ce qui les rassemble, c'est l'époque. Si vous voulez, de ce point de vue-là, ils symbolisent notre époque. Ils sont tous les deux d'abord... l'un est mort et l'autre est mort politiquement, si vous voulez, pratiquement à un an d'écart. Hein. Donc Dominique Strauss-Kahn chute sur le Sofitel en 2011, en mai 2011, et Richard Descoings meurt en avril 2012. Donc, si vous voulez... Et le scandale qui entoure leur parcours, leur capacité de transgression à tous les deux, peut les rassembler. Mais Dominique Strauss-Kahn est quand même tout à fait particulier. Hein. Dominique Strauss-Kahn, c'est vraiment l'absence, c'est un homme amoral, c'est ce qui le rend intéressant d'ailleurs, mais il est tout à fait en dehors des règles. Richard Descoings, c'est pas tout à fait ça. Richard Descoings connaît et comprend et compose beaucoup plus avec le système, les élites. Il est quand même dans un cadre, il dirige l'école, et même si il a cette vie tumultueuse qu'on évoquait tout à l'heure, si vous voulez, il peut pas être arrêté pour tentative de viol. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il y en a un qui frôlait les problèmes judiciaires sans arrêt. Richard Descoings, il s'est fait attribuer des salaires mirobolants, mais enfin, c'est pas tout à fait de la même nature. Mais c'est l'époque. Et ça, je pense que effectivement, mais je pourrais rassembler aussi Nicolas Sarkozy, par exemple. Vous voyez, c'est le même type de personnalité transgressive qui modifie les codes, qui s'affranchissent des règles assez sclérosantes du système. Et qui en même temps, il participe complètement.